Bienvenue au Sermon d'Hypocrite, le podcast où l'on parle des choses qui affectent notre santé, mais ne se trouvent pas en pharmacie. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, la méditation ou l'activité physique, tout ce qui a un impact profond sur notre santé est bon à découvrir, étudier et discuter. Bienvenue au Sermon d'Hypocrite, aujourd'hui je suis avec Greg Gibaud de la chaîne Major Mouvement. Greg est kiné, donc spécialiste du mouvement. Il est enseignant à l'Institut de Thérapie Manuelle et de Physiothérapie, l'ITMP, et il est venu aujourd'hui pour nous parler de mouvement. Bienvenue.
Salut
Greg.
Ben, ça va?
Salut, ça va et toi?
Ça va très bien.
Alors on a commencé à parler déjà un petit peu en off.
Je crois qu'on a quasiment fait. On a fait quasiment tout le podcast juste tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Donc on va recommencer, on va faire un résumé de ce qu'on a dit. Mais est-ce que tu peux juste donc rapidement nous parler un petit peu de ce que tu fais professionnellement pour ceux qui ne te connaissent pas, de ta chaîne, de ton de ta profession à côté, juste pour faire un petit tour d'horizon et puis ensuite on se lance.
Eh bien, donc moi je suis kiné en libéral depuis 10 ans, spécialisé vraiment sur tous les problèmes musculaires, articulaires, et je me suis vraiment voué une passion à vulgariser à la fois mes connaissances, mais à les mettre en scène sur les réseaux sociaux. Et il s'avère que, comme le mal de dos, les douleurs du sportif sont des problèmes récurrents et que parfois on a du mal à trouver un son de cloche chez les différents professionnels de santé, et qu'assez paradoxalement, même si la santé, ça nous concerne tous, ça fait partie du domaine de l'intime, et on a chacun tous nos petits problèmes de santé, eh bien, j'ai essayé de résumer tout ça avec toutes mes connaissances scientifiques. Alors, quand je dis toutes mes connaissances, c'est qu'en étant enseignant, j'ai la chance, en fait, d'avoir un comité de lecture qui lit toutes les dernières revues de littérature spécifiquement sur les problèmes articulaires et qui me fait un résumé. Donc moi, je fais un résumé de résumé de résumé et je mets ça au service du plus grand nombre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et YouTube Major Mouvement, et sur LinkedIn où je donne plus des solutions aux problèmes de posture, de travail et de santé au travail.
Et du coup, c'est ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, en fait, qu'on parle de l'importance du mouvement dans la santé. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que je t'ai découvert via une collaboration que tu avais fait sur YouTube avec Syllabus, où ça parlait donc du squat asiatique, vidéo très sympa au passage que je recommande. Mais,
merci beaucoup.
Et effectivement, t'as mis, là où j'ai tiqué, c'est lorsque tu as parlé en fait, de l'articulation de la cheville, à quel point c'était important. Et j'ai fait « Ah, lui, il va être bien. On va bien s'entendre. » J'ai découvert ta chaîne comme ça, très sympa. Et d'ailleurs, il y a quelques petites vidéos que j'ai notées. Je me suis dit « Tiens, ça fera de bons sujets pour aujourd'hui. » Donc, je voulais qu'on parle de l'importance du mouvement pour la santé. Et pourquoi aujourd'hui, par exemple, avec le mode de vie moderne, lorsqu'on travaille en bureau, on a finalement assez peu de mouvement dans notre vie et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, j'ouvrirais bien le bal avec un petit postulat que j'ai déjà entendu ailleurs et tu me diras ce que tu en penses et si tu veux rajouter des trucs dessus. J'ai entendu une fois, et j'ai bien aimé cette façon de le présenter, que le cadre moyen ou l'employé de bureau moyen en supposant qu'il fait une heure de sport par jour, en réalité, passe 23 heures assis ou sans bouger. Et pourquoi? Parce que, on suppose que tu dors 8 heures, donc ça, c'est dans le meilleur des cas, tu dors 8 heures, puis ensuite, tu vas avoir peut-être 2 heures de transport dans ta journée, donc là, tu es à 10 heures, il ne te reste plus que 14 heures. Donc, dans ces 14 heures, on va enlever 8 heures de boulot, où là, tu es assis, il nous reste 6 heures. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les maths.
Oui, mais sur les maths, de toute façon, les gens ont arrêté d'écouter. En tout cas, moi, j'ai arrêté de t'écouter. Je connais la fin de l'histoire. Donc...
Mais bon, en gros, l'idée, c'est que entre les transports, les repas, la télé, et lorsque tu additionnes tout, en fait, tu as été peut-être debout une heure dans la journée, plus ton heure de sport. Donc, en fait, tu as fait 2 heures debout. Et est-ce que, du coup, ces deux heures de mouvement, elles vont réussir à contrebalancer tes 22 heures d'inactivité? Sachant que tu ne fais pas forcément du sport tous les jours.
Alors, je trouve que, en gros, tu as soulevé tellement d'excellentes questions dans ton histoire que je vais y répondre point par point si tu le veux bien.
Ouais, vas-y.
Je pense que la première question que tu soulèves, elle est évidente comme le nez au milieu de la figure, mais n'est pas évidente pour tout le monde et elle a différents degrés d'interprétation. Je m'explique. En gros, tu soulèves le problème de l'inactivité liée à la sédentarisation de nos travaux. Je suis peut-être bon en mécanique, mais nul en orthographe, donc en conjugaison. La sédentarité de notre travail. la sédentarité de notre travail, elle est évidemment évidente. On bouge moins qu'avant. Et du coup, on trouve tout un tas d'excuses à dire, bah voilà, comme je bouge moins qu'avant, j'ai mal au dos, que le mal de dos, c'est le mal du siècle parce que je ne bouge plus. Et en gros, bah, c'est le travail qui me fait mal au dos et je suis victime de cette sédentarisation de la société. Je ne suis en fait qu'un dommage collatéral de cette société qui me fixe sur une putain de chaise. Mais en même temps, ce dommage collatéral, c'est ma vie personnelle et il en ressort bah, pas mal d'amertume, parfois de la fatigue, de la lassitude et surtout, au final, cette sensation d'être sans solution. Ça, c'est le premier point que tu soulèves qui est finalement assez évident. Maintenant, moi, en fait, le deuxième point que je voudrais soulever et peut-être que là, il faut s'accrocher un petit peu pour l'explication que je vais donner, c'est qu'en fait, je vais raconter une histoire qui est complètement différente. Qui est l'histoire de il y a une forme de fatalité qu'il est nécessaire d'accepter. Il y a une forme de se dire, même les gens qui ont un métier qui est actif ont aussi des douleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de comprendre en fait l'origine de la douleur. Et que cette fatalité de j'ai le cul vissé sur une chaise n'est pas forcément en lien avec la douleur. Et c'est ce qui fait qu'au final, il y a autant de gens qui sont en perdition de dire bah, « En fait, je ne comprends pas parce que ça fait 15 ans que je suis assis sur une chaise, 15 ans que je n'ai pas mal au dos. Pourquoi est-ce que je commence à avoir mal au dos du jour au lendemain ?» Et à l'inverse, bah, j'ai ma copine Josiane qui, elle, est infirmière qui passe le temps assis debout à faire 18 heures de travail par semaine, à faire sa tournée de domicile. Et j'ai mon mari Bruno qui, lui, est magasinier et passe son temps à porter des charges. Bah, tous les trois, on a mal au dos. Mais alors, c'est quoi ce bordel ? Et en fait, il faut juste comprendre que le travail, quelle que soit l'activité, peut occasionner des douleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Et qu'il faut se réapproprier en fait la raison qui nous fait mal au dos à nous. Et que si on prend la personne qui a le cul vissé sur une chaise, l'infirmière qui passe son temps à faire assis debout, et le magasinier qui passe son temps à porter de la charge, les trois personnes pourraient avoir mal au dos, mais les trois personnes auront des maux de dos pour des raisons différentes. Et c'est un peu comme si on prenait trois personnes qui avaient eu un accident de voiture et puis il y en a un, il a eu un accident de voiture parce qu'il s'est endormi au volant, il y en a un qui a eu un accident de voiture parce que ses freins ont lâché, il y en a un qui a eu un accident de voiture parce qu'il ne sait pas conduire. Ouais, tu ne vas pas leur dire à chaque fois, il suffit de réparer le moteur, ma bonne madame, et puis ça va bien se passer. Non, en fait, pour chacun, il faut répondre à leurs problèmes. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit, tu soulèves beaucoup de questions et il faut apporter autant de réponses. Et c'est pour ça que le problème est plus compliqué, mais à la fois plus simple. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça dans « je passe une heure par jour à bouger ». Il est à la fois plus compliqué parce qu'on comprend, on commence à comprendre qu'il y a forcément une forme d'individualisation de la réponse à la solution du problème de la sédentarité. Et à la fois plus simple en disant « si on respecte les principes de base, en fait, on arrive à apporter une très très bonne réponse » à beaucoup de problèmes. Ouais, c'était pas trop dense ?
Non, ça va. Et justement, c'est ça. C'est, je pense que c'est cette partie-là.
Paradoxe.
En fait, c'est ouais, là où tu, effectivement, il y a une individualisation qui est nécessaire, mais tu as quand même des fondamentaux, on va dire, que s'ils étaient appliqués à tout le monde, pourraient en tout cas enlever une grande partie, j'imagine. Peut-être sûrement pas tous, mais une grande partie. Des mots qu'on voit en tout cas, ou les atténuer du moins.
Oui, et le souci qu'on a par rapport à ça, et là je parle vraiment en tant que kiné, c'est que ces principes-là, ce qu'on pense être vrai, ce qui sont véhiculés dans les médias, y compris par certains confrères, en fait n'apportent pas les résultats que l'on espère. Je te donne un exemple très précis, qui est celui de la posture. Qui est de dire, oula, si vous avez mal au dos, pour éviter d'avoir mal au dos, surtout il faut avoir le dos bien droit quand vous portez une charge, surtout faire bien attention à votre dos, garder le dos bien droit et les jambes pliées. Bref, tous ces schémas-là, tout le monde les a en tête avec ces fameux do and don't, ou ça c'est bon, ça c'est pas bon, qui sont des sortes de guidelines, en tout cas de guides, de comment bien utiliser son dos.
Ouais.
Et ben, je pense, tu les as en tête là au moment où je te parle ou c'est
ouais, il y en a quelques-uns qui me reviennent. Donc, si par exemple, tu prends l'exemple de la charge lourde, le fait de ne pas plier le dos, par exemple, quand tu vas te pencher, Et je dois t'avouer, moi qui, juste pour mon entraînement perso, me retrouve régulièrement à soulever des charges lourdes, ouais, aller les chercher juste en squat. Alors, je ne parle pas non plus de centaines de kilos, hein, on parle de trucs modérés. Hein. Mais lorsque je dois soulever, je sais pas, une grosse medicine ball ou un truc comme ça, normalement, je devrais juste faire un squat et garder le dos ultra droit en squattant juste au-dessus. Bah, je trouve que c'est, finalement, c'est beaucoup plus facile si je me penche quand même un peu en avant. En même temps, je fais les deux, tu vois.
Exactement.
C'est pour ça que, oui, c'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre où tu vas te dire, bah, d'un côté, je suis assez bien en courbant le dos et en ayant le dos rond, mais en même temps, j'ai cette idée un peu ancrée en moi qui me dit que je dois le faire le dos droit. Et en fait, si on imagine pour quelqu'un qui ne serait pas forcément en train de faire un squat, mais quelqu'un qui a cette image de « je dois être devant mon bureau, le dos bien droit, les pieds et les genoux à 90 degrés, les hanches à 90 degrés et rester un peu figé », le problème finalement est le même, c'est qu'on confond deux choses. On confond l'efficacité d'un geste et la capacité du corps à réaliser ce geste-là. L'efficacité de geste, elle serait dans un respect quasiment optimal d'angle et d'utilisation musculaire. En gros, si jamais tu es à 130 sur l'autoroute, tu seras mieux en cinquième que si tu étais en troisième vitesse. Tu as une meilleure efficacité. À côté de ça, en fait, ton corps à toi, il est capable tout à fait, même si le moteur va fumer un peu, de faire quelques excès et d'être un troisième à 130 sur l'autoroute. Il est capable de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que à se focaliser en permanence sur « ouh là là, il faut toujours garder le dos droit, ouh là là, il faut toujours avoir une bonne position », on va augmenter la vigilance du cerveau sur un problème qui n'en est pas forcément un. On va augmenter la vigilance et la sensation d'importance qu'on va accorder à un message douloureux sur un truc qui n'est pas forcément douloureux. On va prendre ton exemple à toi que tu m'as décrit qui est hyper intéressant. Quand je me penche en avant et que j'ai le dos un peu rond pour soulever un objet qui n'est pas très très lourd, bah, je me sens bien. Bah, si tu te sens bien, c'est tout simplement que tes muscles, tes tissus sont tout à fait capables de soulever de soulever un objet avec le dos rond. Ouais. Et que chez quelqu'un comme toi qui est capable de le faire, il n'y a aucune raison qu'on lui mette en tête « oula, fais surtout attention à faire ça ». Et pourtant, dans le milieu du sport, tu l'entends en permanence. « Oh là là, surtout, fais attention en faisant ce geste-là, tu risques de te blesser. » Mais en fait, on a énormément, énormément étudié ça. On est absolument incapable de prédire la survenue d'une blessure. Les coachs et parfois même, je dois le dire, les pseudo-coachs, les mecs qui n'ont comme expérience que leur propre expérience personnelle, sont souvent pleins de conseils, mais de conseils qui n'ont aucune réelle justification scientifique. Et là où ils voudraient plutôt te prévenir de ne pas te blesser, la plupart du temps, ils te donnent de la démotivation, de te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien, que ce que tu fais, tu vas te faire mal. Et finalement, ils tuent probablement plus d'espoir qu'ils n'en créent en ayant en permanence un message qui soit alarmiste.
Bah, c'est un des trucs qu'on disait juste avant. Je trouve que c'est super important en fait que si tu vas partager quelque chose, si tu veux dire, dans mon expérience, tel truc, ça fait mal. Eh ben, c'est important de faire comprendre que c'est anecdotique. Moi, j'ai observé que ça. Et j'ai souvent entendu dire que ça. Mais si ça marche pour toi, bah, qu'est-ce que je te dise ? C'est pas pareil. T'es pas fait comme moi.
Exactement. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant, le mot anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une forme de hiérarchisation d'informations. Que ce qui t'arrive à toi, ou même ce qui m'arrive à moi, bah, c'est du domaine de l'anecdotique. Peut-être que moi, comme je suis kiné, bah, je passerai un cran au-dessus en termes de, au lieu d'être de l'anecdote, je serai de l'avis d'expert. Mais même un avis d'expert, au niveau scientifique, ça ne vaut pas grand-chose. Versus, on a fait une étude scientifique. Et encore, une étude scientifique, quand elle est bien faite, ça ne vaut pas grand-chose. Versus, on a fait 10 études scientifiques sur le même sujet. Et même ça encore, ça ne vaut pas grand-chose. Versus, on a fait 1000 études scientifiques sur un sujet. Et à partir de 1000 études scientifiques, on peut en ressortir quelques grands conseils ou quelques grandes, j'aime bien ce mot guideline parce qu'il sort bien en anglais, mais de conduite à tenir. Et finalement, ça reprend un peu cette idée de ce qu'on a eu au tout départ, de se dire, quand on prend le problème de la posture, il y a à la fois cette nécessité d'individualisation du conseil. Tu vas quand même faire beaucoup plus confiance à Ben ou à Greg qui te regarde droit dans les yeux en disant « Écoute, moi, j'ai remarqué que quand j'utilise mon genou là-dessus, ça me fait moins mal que quand je fais ça parce qu'il y a le biais de « j'ai confiance dans la personne que je connais », ce qui serait de l'individualisation du conseil versus finalement, si on applique les grandes lignes de ce qu'on sait qui marche, le très haut niveau de preuve, ce qu'on appelle les méta-analyses, on a regroupé énormément d'études scientifiques sur un sujet, et à partir d'énormément d'études scientifiques sur un sujet, on est capable d'en sortir les grandes tendances.
Bah, d'ailleurs, tu me fais penser à un truc, un sujet qui revient régulièrement, parce que moi, je fais beaucoup de courses à pied, et c'est le truc de la foulée. Tu sais, on parle de avant-pied, médio-pied, les talonneurs, les fameux talonneurs. Et donc, par exemple, à force d'observer les gens, donc moi, j'ai tendance à courir plutôt médio-pied, donc en fait, j'ai le pied qui tombe à plat, c'est ça que ça veut dire. Je connais plein de gens qui en théorie, et je viens en théorie, parce qu'ils tombent sur le talon, ils devraient s'éclater les genoux. Sauf que ce que j'observe, c'est que oui, ok, ils tombent sur le talon, ce qui n'est peut-être pas le meilleur truc. Si on sait que ce n'est pas idéal, mais ils tombent sur le talon, sauf qu'ils sont très légers sur leurs pas. Et donc, en fait, ce fameux impact destructeur, finalement, n'a pas lieu. Et donc, ils sont en train de faire un truc qu'ils ne devraient pas faire, mais en fait, ça marche.
Exactement. Tu mets le doigt sur quelque chose qui est passionnantissime. On va prendre cet exemple parce qu'il est très très bon, où on peut voir, il y a un côté dans la course à pied, dans le trail ou dans l'ultra trail, tu m'entends toujours?
Ouais.
Ah oui, c'est toi qui as coupé le micro quand
oui,
tu as toussé.
C'est ça.
Il y a ce côté où si on prend la pure course à pied, elle est extrêmement difficile à évaluer parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans la performance de la course à pied que l'aspect simple, et là je vais prendre le mot que tu as cité sans le dire, biomécanique, à savoir comment réagit ton corps face à la physique. La physique, c'est quoi? C'est je dois faire 30 000 pas pour pouvoir réaliser ma course à pied, et à chaque fois que je vais faire 30 000 pas, il va y avoir un impact au sol. Et déjà, cette notion d'impact, moi, c'est un mot que j'aime pas du tout, parce que le meilleur moyen de ne pas avoir d'impact, c'est de rester le cul dans ton canapé. Or, pour la santé globale, tu auras bien meilleur intérêt à aller courir que de rester dans le cul dans ton canapé. Donc, dire, et ça, je l'entends encore énormément, je ne peux pas courir parce que ça fait trop d'impact, en fait, ce n'est pas du tout la bonne version. La version, elle est de se dire, au fait, comment je fais quand je cours pour faire en sorte d'avoir une foulée qui rebondisse le mieux au sol pour amortir au mieux? C'est plus la même appellation. Et donc, en fait, pour amortir au mieux, est-ce qu'il vaut mieux que je sois en attaque médio-pied? Ou si on imagine le pied, vous voyez à peu près qu'est-ce que je peux donner comme exemple pour le pied? La notion d'arche souple, je pense que ça peut parler aux gens. Une arche qui serait souple, tout simplement. Quand vous attaquez au niveau du médio-pied, en fait, vous avez... C'est au niveau du médio-pied, donc le milieu du pied, là, on a le maximum de souplesse et de rebond au niveau du pied. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'intégralité en fait, des articulations au niveau du pied qui sont, que je ne dise pas de conneries, au nombre de 26, mais je ne suis pas très, très bon en anat pur et dur, en compréhension d'anat, je suis bien meilleur. Mais on s'en fout que ce soit 26, 22 ou 19. Quand vous attaquez médio-pied, vous utilisez l'intégralité de cette arche souple. Tandis que quand vous attaquez talon, eh ben, on utilise beaucoup moins toutes les articulations du pied, on attaque directement sur le talon. Mais si vous êtes très très bon au-dessus, au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau du dos, au niveau de la sacro-iliaque, au niveau des épaules et au niveau des cervicales, pour pouvoir amortir ce choc-là, finalement, qu'on fasse l'un ou l'autre, du moment que vous êtes bon dans votre geste, on s'en fout un petit peu. Donc en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant d'aller changer une foulée. C'est extrêmement compliqué, ça on le sait. Ça prend quasiment un an à un an et demi pour changer une foulée. Donc, quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui court et qui est efficace avec une attaque talon, il y a zéro raison de le changer. Quelqu'un qui est sur une attaque talon, qui n'arrive pas à se débarrasser d'une douleur, qui a vraiment essayé de réengager mieux son genou, qui a réessayé de réengager, de réactiver à fond ses fessiers, qui a le principe de base toujours sur une douleur qui traîne. On va prendre la périostite qui est un problème de fond des coureurs, cette douleur au niveau de la face antérieure du tibia. Petite parenthèse sur la périostite, en 10 ans de pratique, des périostites, j'en ai croisé 2. Des fausses périostites, j'en croise 3 par semaine.
Ouais. Tu reviendras là-dessus après alors.
Ouais.
Ça m'intéresse.
Donc, ouais, je sais.
Moi,
c'est la hantise du coureur.
J'en ai plus jamais.
Ouais.
Mais
c'est la hantise du coureur. On en reviendra. Probablement. Des fausses, il y en a à l'appel. Des vrais, il y en a très, très peu.
Ouais.
En fait, il faut toujours plutôt se demander. Du coup, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. L'efficacité de ta. Oui, c'est ça. Le principe de base, c'est vraiment en fait la progression, voire la déprogression de ta mise en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mise en charge, c'est ton volume d'entraînement, tout simplement. Il faut que sur ton volume d'entraînement, il soit suffisamment progressif pour créer l'adaptation de tes tissus. En gros, quand tu fais du sport, ça va changer la nature de tes cellules musculaires, tendineuses, osseuses, cartilagineuses, tout ce que tu veux. Ce changement tissulaire, il prend du temps. Il peut prendre. Tu me dis si jamais c'est un peu trop technique.
Bah moi, ça m'intéresse après.
Bon. Mais de toute façon,
je vais être obligé de t'emmener sur un autre sujet parce qu'après, on va me dire Ben, tu fais chier avec ton podcast sur la course à pied. À chaque fois, t'en parles, bon. T'es casse-couille. Okay. Mais bon, ça, voilà, c'est moi qui ai lancé le sujet et la réponse est intéressante. Donc, vas-y.
Ok. Ce volume d'entraînement, il doit répondre non pas à toi ce que tu as envie et ta compète du jeudi après-midi, elle doit répondre à ta capacité de modification de tes cellules.
Bah, du coup, tu tombes sur un truc qui est parfait pour arrêter de parler de course à pied. Mm-hmm. Tu parles du fait de s'écouter, en fait.
S'écouter, et en fait, moi, ce que j'explique toujours, c'est s'écouter sans s'écouter. C'est-à-dire que c'est s'écouter et être capable, en fait, de faire une sorte de body scan. Tu regardes quel est ton état de forme du moment et tu le compares au délai de transformation de tes tissus. Et en fonction de ton état de forme, tu te dis bah là, je suis dans une zone forte ou je suis dans une zone faible. Exemple concret, il faut à mes muscles au minimum 6 semaines d'entraînement pour être modifié. D'accord ? Si je augmente trop ma capacité d'adaptation de mon tissu, c'est-à-dire que je vais passer de le lundi, je cours 2 km, le mardi, je cours 4 km et la semaine d'après, je cours 20 km, je suis largement au-delà des capacités d'adaptation de mes tissus. Mais si par contre, le lundi, je cours 2 km, le lundi d'après, je cours 2,5 km, le lundi d'après, je cours 3,5 km et qu'à chaque fois, je me sens bien, je sens que mon corps encaisse bien, que je suis dans les courbes de ces fameuses 6 semaines d'adaptation et que sur 6 semaines, je vais augmenter mon volume d'entraînement de 10 à 25% et que je sens que je l'encaisse bien, là, je vais pouvoir augmenter un peu plus. Mais si au contraire, je sens que mon corps ne l'encaisse pas bien, il va falloir au contraire que je diminue un peu plus. Donc, c'est-à-dire que je regarde ces fameuses 6 semaines d'adaptation et au cours de ces 6 semaines d'adaptation, si je sens que je suis bien, je peux augmenter un petit peu plus. Si je sens que je suis pas bien, je vais diminuer un peu plus.
C'est du coup cette idée en fait. Enfin, là, on l'a appliquée à la course à pied, mais en fait, c'est un sujet que je me retrouve à aborder juste pour le bien-être global. Et t'avais fait un truc qui était pas mal, hein, où tu parlais de posture, hein, par exemple. Je fais un petit peu une petite marche arrière sur là où on était avant. Mais, tu avais fait une vidéo sur la posture où tu parlais quelle est la meilleure posture. Je crois que c'était ça. Je ne sais plus quelle était la posture exacte. Qu'est-ce qu'une bonne posture, en gros. Et du coup, tu parlais en fait de cette notion de bouger. En fait, c'est le fait de ne pas avoir tout le temps la même posture. Et cette notion que finalement, une bonne posture, c'est une posture qui change. Qui évolue, qui est en mouvement, qui est plutôt dynamique, où pour le coup, bah, tu te roulais à moitié par terre pendant la vidéo, c'était rigolo. Et donc ça, c'est des choses qui du coup, sur un quotidien, enfin, tu te doutes bien, quand tu as les fesses posées dans une chaise, enfin, quand c'est dans une chaise de bureau, tu n'as pas trop de possibilités de changer de posture. Et donc, du coup, tu as des gens qui vont s'intéresser à d'autres mécanismes, donc peut-être dans leur marge, dans leur quotidien, pour pouvoir améliorer en fait leur posture globale. Ça va être cette approche, je pense, qui est à privilégier, d'y aller progressivement. C'est pas du jour au lendemain, je vais m'asseoir sur un ballon, du jour au lendemain, je vais tout faire pieds nus, c'est. Je pense qu'il y a quand même des graduations progressives pour aller vers quelque chose, non ?
Exactement. En fait, cette notion de mise en charge progressive, elle est valable pour tout. Après, évidemment, elle est parfois plus faible si jamais la tâche est facile. Par exemple, commencer à travailler pieds nus, tu peux facilement faire 3 heures dans ta journée en étant pieds nus, surtout en ce moment quand tu es chez toi. À l'inverse, commencer par faire 3 heures de course à pied, ça commence à être un peu plus coton. 3 heures de soulever en deadlift en charge max, c'est quasiment impossible. Donc, en fait, à chaque changement d'habitude, son temps d'adaptation, en fait, en fonction du volume d'entraînement, même si passer une journée pieds nus, bah, c'est un changement en fait au niveau de ton corps. C'est toujours le changement qui prend un peu de temps, même si ton changement il est nécessaire, ou en tout cas même si ton changement il part d'un bon fond. Donc, quelqu'un qui voudrait se mettre sur un ballon pour changer sa posture, c'est évidemment une très bonne idée. Si elle commence à passer du jour au lendemain, je passe 8 heures par jour sur un ballon, elle va sûrement s'épuiser plus qu'autre chose. Donc, commencer une heure par jour, puis 2 heures par jour, et ainsi de suite.
Parce que j'ai, par exemple, j'ai reçu donc il y a quelque temps Peter Blanken qui va être dans un épisode qui sort bientôt, qui est on en a parlé de minimalisme, de chaussures minimalistes. Ouais. Et c'était, on n'est pas vraiment rentré dans le sujet, mais c'est typiquement des choses dont on avait déjà parlé avec lui, que lorsque les gens se retrouvent avec des chaussures minimalistes, pas forcément pour la course à pied, mais juste pour le quotidien, au début, ils vont avoir mal aux pieds. C'est-à-dire qu'ils vont s'acheter ces nouvelles chaussures, qui sont donc les chaussures minimalistes, juste pour résumer, c'est des chaussures qui sont super fines. En général, il y a quelques millimètres de semelle. C'est super souple. En gros, c'est essentiellement une sorte de chaussette. C'est une chaussette un peu plus costaud, quoi. Du coup, c'est se balader toute la journée en chaussette. Et les gens qui passent de, on va dire, une chaussure conventionnelle à ça, du jour au lendemain, souvent, ils ont un petit peu mal aux pieds. Et c'est si tout d'un coup, ils décident de les porter H24, quoi. Donc,
c'est ça. En fait, quand ton pied, comme n'importe quelle autre articulation, a besoin de s'adapter, il y a, comme on l'avait vu, on part sur 26 articulations dans le pied. Bah, si jamais elle passe de « je suis en chaussure » à « j'ai quasiment aucun besoin de travailler » à « je suis pieds nus et j'ai besoin de passer mon temps à réadapter, réajuster ma musculature par rapport à ces changements de position du pied, hein, parce que c'est pas pareil quand on est chaussé, quand on n'est pas chaussé, et ben ça peut augmenter en fait les contraintes au niveau du pied, les activations musculaires au niveau du pied. Et à chaque fois, ce qu'on conseille sur le minimalisme, en fait, moi, ce que je pose toujours comme question quand les gens me disent « mais c'est bien minimaliste ou pas ?» Mais ce n'est pas la bonne question. C'est que la vraie question, c'est bien pourquoi ? C'est très bien si tu souhaites développer la musculature de ton pied. Ouais. Et à l'inverse, on peut voir, moi, j'ai fait le Half Marathon des Sables. Donc, c'était au Pérou. On a fait, 120 km dans le désert. Il y avait deux extrêmes. Je n'ai pas les noms en tête, mais les gens qui avaient des chaussures avec des énormes semelles, tu sais.
Ouais.
Quasiment qui font 3 à 4 cm d'épaisseur. Et à l'inverse, il y avait des gens qui étaient pieds nus.
Et il y avait carrément des mecs pieds nus.
Ouais, il y avait des mecs pieds nus.
Ah bah dis donc, je savais pas ça.
Sachant qu'il faisait extrêmement chaud et ne serait-ce que marcher sur le sable, tu pouvais pas en fait. À partir de midi, tu pouvais pas marcher sur le sable. Donc les mecs s'est fait 120 km dans ces conditions-là.
Impressionnant.
Bah, c'est quoi ? On va prendre exactement l'adaptation en fait du tissu cutané, l'adaptation de la peau. Et ben le gars avait fait tous ses entraînements progressivement depuis 2 ans, pieds nus, où il faisait ses sorties pieds nus pour que la peau puisse s'adapter à marcher sur un caillou qui était un peu plus abrupt. À pourquoi pas marcher sur un bout de verre sans atteindre forcément. Parce que quand tu tannes suffisamment la peau au niveau de tes pieds, tu peux quasiment marcher sur un clou et pas forcément le sentir. Hein. Mmh. Moi, j'ai déjà vu des gens qui avaient tellement de… Je sais pas si le mot c'est tanin, mais tellement de cornes au niveau des pieds, qu'en fait, il n'y avait plus de vascularisation à ce niveau-là, il n'y avait plus de sensibilité nerveuse et en fait, il y avait juste une couche épaisse de protection devant parce que le corps s'adapte.
Puis, tu as aussi une flexibilité du pied qui se développe. Parce que, en fait, après, ça, c'est mon expérience du truc, hein, mais moi, ce que j'ai observé, c'est que, parce que je fais ça depuis un moment, des années maintenant, mais je me suis rendu compte que, en fait, mon pied était plus souple. Et en fait, mon pied contournait les obstacles, tel un réflexe, en fait, sans même que… Enfin, c'est pas moi qui me dis « Ah, attention, ça fait mal, tu vois, fléchis différemment. » C'est vraiment, ça se passe tout seul.
En fait, vas-y, continue.
Mais non, c'est juste que du coup, t'as pas forcément, en fait, c'est une énorme croûte sous le pied. Mais par contre, tu deviens plus flexible et quelque part, en fait, tu réduis la pression qui va être appliquée à un endroit, donc même si finalement il n'y a pas tant de cornes que ça, bah, tu t'en sors très bien parce que ça appuie moins fort.
C'est ça. On pourra en parler pendant 2 heures, je ne sais pas si c'est le sujet, mais l'adaptation du pied, c'est passionnant.
Oui, et puis en plus, bah, tout ce qui va être posture est bâti sur le pied. Je veux dire, c'est ta surface de contact avec le sol quand tu n'es pas assis. Mais non, un truc dont j'aimerais vachement qu'on parle justement, c'est donc un sujet un petit peu différent. Tu as fait pendant 30 jours, tu as fait des abdos tous les jours. Et donc, tu voulais montrer quelque chose. Je te laisse peut-être un petit peu expliquer ce qu'il y avait derrière ça.
Alors, c'est un projet qui était assez complet. Je parle souvent sur ma page de Body Positive. Je t'explique rapidement. En tant que kiné, moi, je croise principalement des gens qui ne sont pas actifs, qui sont sédentaires, qui ne font pas de sport et qui ne savent pas dans quelle direction partir. Okay. Or, malheureusement, sur les réseaux sociaux, la plupart du contenu sportif qu'on trouve, c'est pour des gens qui sont confirmés, voire très confirmé, ou alors pour des gens, et ça c'est le problème principal, qui pensent être confirmés parce qu'ils voient ces influenceurs qui ont des physiques de rêve toute l'année, qui proposent des programmes miracles. Et je trouve qu'en fait, il y a un gouffre tellement grand entre ces physiques qui sont si éclatants, qui sont si beaux, et la réalité du quotidien, où moi j'en parle souvent, je dis, il faut arrêter à un moment donné de mentir aux gens, quoi. Il faut arrêter de mentir que c'est un life achievement d'avoir des pecs saillants, des abdos saillants et avoir un bouti de l'espace. C'est faux et ça ne te rendra pas plus heureux. Et faire miroiter aux gens qu'avec un physique parfait, tu seras plus heureux, que d'avoir un physique parfait veut dire que tu as tout compris à la vie, c'est du bullshit complet. C'est du bullshit complet. Est-ce que les gens qui ont un beau physique sont plus heureux? J'en sais foutre rien. Est-ce que les gens qui ont un beau physique ou qui arrivent à mettre en place toute leur vie tournée autour du LC, j'ai juste envie de dire, bah, ça répond à leurs problématiques à eux qui ont envie de se donner du mal pour répondre à ce bien-être quasiment excessif. Et je trouve que de faire miroiter une vie si parfaite sur le papier, c'est très culpabilisant. Et de se dire, bah en fait, je peux accepter d'être en bonne santé avec des abdos qui ne ressortent pas, mais juste ma petite activité sportive que je fais 3 fois par semaine sans faire de la compète et juste me vider la tête et me faire du bien et cocher toutes les cases du bien-être sans forcément avoir une assiette ultra diététique et avoir un physique de dingue. Ça, c'est vraiment ce que je bataille. Et de me dire, il faut en parler de ce corps qui ne se prend pas la tête, mais qui se fait du bien juste pour le principe de se faire du bien. Et évidemment, bah, y a dans ces messages LC, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que certaines personnes ont besoin de temps en temps de coups de pied au cul, et puis d'autres ont de temps en temps, et parfois c'est les mêmes personnes, ont besoin juste de poser la tête sur une épaule pour dire « Ok, je t'écoute et j'ai bien compris ton problème de santé. » Donc, j'ai tout ça un peu en ligne de compte. Et donc, ça, je décide de l'attraper ou d'en parler étape par étape pour arriver à changer les mentalités. Et donc, mon étape du moment, c'était de dire, bah, vous voyez, on va bientôt arriver à l'été. Et comme pour chaque été, on va voir passer dans tous les magazines, sur tous les comptes Instagram et sur tous les comptes YouTube, des summer body ou des programmes pour arriver au top shape, pour être au top sur la plage. Et je suis, comment dire, en étant sur le terrain, En parlant vraiment avec les gens, parce que les gens nous parlent hein, quand ils sont en salle d'examen avec nous, je ne connais pas une seule femme qui soit vraiment à l'aise avec son corps. Et pour les hommes, souvent, ils sont un peu plus binaires, qui est de dire soit je m'entretiens et j'aime mon corps, soit je m'en fous royalement. C'est plus rare d'avoir des hommes qui complexent, ou en tout cas, ils ne me le disent pas à moi, peut-être parce que d'homme à homme, c'est plus difficile de dire à un mec j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Donc, je vais plutôt parler de ce que je constate aux femmes, parce que les femmes, pour le coup, se livrent plus par rapport à ça. Je connais pas une seule femme dans toute ma carrière qui m'a dit, moi, mon corps, je le kiffe tel qu'il est. J'ai rien à enlever, j'ai rien à ajouter, je suis parfaite comme ça.
Oui, très peu d'acceptation, en fait.
Il n'y a pas d'acceptation de dire... Les rares fois où j'ai entendu ça, assez paradoxalement, c'est des femmes qui ont des maladies chroniques installées et qui te disent bah, « en fait, j'ai été obligé d'accepter mon corps ». En fait, la maladie ou l'âge a fait que j'étais obligé d'accepter mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Et qu'assez paradoxalement, celles qui ont le plus de cartes en main n'acceptent pas leur corps. Et je trouve ça en fait affligeant d'un côté d'avoir toute cette génération de femmes et d'hommes qui complexent et que la seule chose qu'on a à leur proposer, c'est des pseudo-programmes pour qu'ils dépensent de l'argent et en fait n'en avoir rien à foutre de leurs problèmes. Ça, c'est une réalité. Alors évidemment, dans ces programmes, il y en a qui sont très bien. Et c'est ça que je voulais aussi expliquer dans ma vidéo. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un peu long. Ouais. Et dans ma vidéo, justement, j'explique en fait quels sont les critères qui montrent que vous pouvez faire confiance dans un programme. se remettre au sport, c'est excellent. Ouais. Se remettre au sport avec un programme qui vous donne vraiment les bons outils, c'est excellent. Se mettre au sport avec un programme qui vous donne des outils qui, en 30 jours, vous promettent monts et merveilles avec des outils qui ne sont pas les bons, c'est pourri. Ouais. Et au final, ce serait un peu comme d'expliquer à quelqu'un, tu veux construire ta maison, bah écoute, voilà, là, tu as un sac de ciment, là, tu as une pelle, là, tu as une pioche, là, tu as des briques, là, tu as un plan d'architecte et une étape par une étape, je vais te montrer comment montrer ta maison. Et puis, un autre côté qui dit, tu veux montrer ta maison, bah écoute… tiens, là, tu as un peu d'enduit et puis je te donne un tournevis et puis tu vas voir, dans cette semaine, tu auras une maison parfaite. Ben non, en fait, pour construire une maison, comme pour construire un corps, ils te font les bons outils, ils te font les bons délais. Et donc, avec cette notion de 30 jours d'abdos, ce que je voulais principalement montrer, c'est que à la fois, il n'y a pas d'exercice miracle, que ces mouvements d'abdos à type de crunch qui ont été extrêmement démocratisés à une époque, en fait, c'est un outil comme un autre. Et qu'un outil, bah, si jamais tu n'as qu'un tournevis, bah, tu ne vas pas pouvoir planter des clous et tu ne vas pas pouvoir repeindre tes volets. Et que les abdos qu'on met à toutes les sauces, à la fois pour avoir du ventre plat, à la fois pour perdre du ventre, à la fois pour avoir moins mal au dos et à la fois pour avoir des six-packs, bah, on te vend ton tournevis comme étant « Ah bah, achète un tournevis, tu vas voir, tu vas pouvoir repeindre tes volets, planter des clous et en même temps couper du câble avec. » Bah non, à la limite, au mieux, tu vas juste pouvoir visser une vis. Et c'est ça que je voulais dénoncer, de dire 30 jours, c'est beaucoup trop court pour avoir une transformation. Si tu n'associes pas la diététique à un exercice physique, tu n'auras aucun changement au niveau de ta perte de poids. Et que pour perdre du poids, les abdos ne sont pas le meilleur outil. Pour avoir un ventre plus plat, les abdos à type de crunch n'est pas le meilleur outil. Pour avoir moins mal au dos, les abdos n'est pas le meilleur outil. Et le dernier élément que j'avais dit, c'était pour avoir… les abdos saillants, peut-être que ça peut être le meilleur outil, mais à ce moment-là, sous certaines conditions.
Et en plus de ça, c'est un exercice qui est quand même dur en soi, qui est très long, qui prend un temps fou. Ouais. Moi, je sais que j'ai horreur de ça. Je n'en fais pas. Et du coup, c'est… ce que je vois, c'est que c'est souvent des choses qu'on s'imagine. Alors, je me retrouve régulièrement à travailler des gens en situation de surpoids ou situation de mauvaise santé, mais c'est quand même un truc qu'ils imaginent un petit peu. C'est-à-dire qu'ils disent rarement « j'ai envie d'avoir des plaquettes, hein, j'ai envie d'avoir des tablettes hein, », mais dans la description, tu comprends que c'est à ça qu'ils font… Enfin, ils aimeraient se voir comme ça.
Ouais.
Et le truc, c'est que déjà, il n'y a pas de programme de 30 jours si aujourd'hui, t'as un petit peu de poids en trop ou globalement t'es juste en mauvaise santé, pas forcément avec du poids en trop, c'est même du poids en moins, mais cette transformation elle va se faire sur peut-être des années.
C'est ça.
Enfin, moi je sais que j'étais en surpoids. Bon, aujourd'hui mes abdos sont visibles, mais j'ai commencé il y a 10 ans et par contre j'ai fait zéro abdos dans le processus. C'est alors ça. Peut-être que ça serait allé plus vite si j'en avais fait. Ok, super. Je suis plus content de ce résultat.
C'est ça. Et en fait, j'ai envie de te dire même pas quoi. Même oui, pas.
C'est pas dit.
Pas eu... c'est pas que c'est pas dit, c'est que t'aurais probablement plus perdu du temps.
Oui.
Mais c'est pour ça justement que je me suis attaqué aux abdos, qui est un exercice phare, mais qui finalement, si on regarde vraiment dans la littérature, est plus une perte de temps qu'autre chose.
Oui. Et du coup, c'est cette idée. Alors, du coup, t'as mis en avant dans ce challenge-là. Et je sais qu'ensuite, tu as fait aussi un truc dédié à ça que j'avais trouvé pas mal, où on va retrouver ça peut-être dans ce que tu as fait autour du gainage. C'est cette idée que c'est l'exercice un peu, le mono-exercice, en fait, et pas vraiment bénéfique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est assez limité. En revanche, la variation d'exercice, donc tu prenais pas, dans le truc du gainage, tu prenais pas mal d'exemples qui étaient intéressants, donc le fait de varier les postures, de pas juste faire la planche, mais en fait d'enchaîner avec tel ou tel exercice, de bouger un peu autour, d'être mobile. Là, du coup, tu sollicitais beaucoup plus de muscles. Et en termes de développement musculaire, du coup, c'était plus intéressant finalement que de rester complètement statique.
Exactement. En fait, le truc, c'est que il y a souvent cette fameuse triade un peu du bien-être. Je vais faire des pompes, des abdos et un peu de gainage pour me maintenir en forme. Et là-dedans, en fait, c'est la sécurité de se dire je vais faire des exercices entre guillemets dits classiques et pas avoir à me prendre la tête parce que si je fais ça, ma foi, j'ai vu plein de gens le faire, ils sont forcément bons. Bah ouais, sauf qu'en fait, le mono-exercice n'apporte que des mono-résultats. Et souvent, ce sont des exercices qui ne vont pas apporter les résultats que tu attends. Et à l'inverse, trop varier les exercices. Admettons quelqu'un qui va faire juste 3 squats, 2 levées de bras, 6 écartements de bras, puis courir 5 minutes, puis nager 3 minutes, puis aller escalader, puis faire du tennis et passer son temps à varier d'activités. En fait, le corps, il n'a pas le temps de s'adapter à toutes ces activités-là. Donc, il faut trouver le bon compromis entre la régularité et la patience de s'atteler à une seule tâche pour avoir des résultats, mais être capable, en fait, de réintroduire d'autres mouvements, en fait, progressivement. Et c'est ça qui est parfois difficile, en fait.
Et donc, dans cette idée d'y aller progressivement, donc, quelqu'un qui, justement, enfin, en fait, quelque part, je pense que tu as bien mis le doigt sur le truc. C'est-à-dire que l'idée de se dire « je vais me transformer pour aller sur la plage l'été », c'est juste pas la bonne approche, en fait. Enfin, c'est une approche qui va potentiellement plus nous desservir que nous servir. En revanche, se dire « j'aimerais être mieux, en fait, cet été, mais par contre, m'inscrire dans la durée et se dire bah, « cet été, j'en serai là, et puis j'en serai où j'en serai voilà. ». Accepter un peu de lâcher cette temporalité du truc. Et de dire, bah, je vais mettre en place une petite, je vais reprendre ton analogie de la maison, mais de me poser une petite brique tous les jours. Tu vois. C'est, je sais pas vraiment construire une maison, mais peut-être que si je posais cette brique, au bout d'un moment, il y aura un truc qui ressemble à un mur.
C'est ça.
Et tous les jours, je vais poser une ou deux briques.
C'est ça.
Une petite le matin, une petite le soir, des petits trucs à intégrer un peu dans son quotidien.
C'est ça.
Bah, du coup, là, je vais progresser vers un but, et peut-être que cet été, bah, j'aurai pas une maison. Mais j'aurais peut-être un petit muret et ça sera déjà pas mal.
Et puis voilà. Surtout, si jamais je me rends compte que finalement le muret que j'ai construit il est complètement de traviole, bah, je vais apprendre à pouvoir le remettre droit.
Aussi.
Et ce droit à l'erreur, moi, c'est quelque chose que j'invoque en permanence, qui est pourtant très très mal perçu. Et ça, je m'en suis rendu compte, c'est hyper intéressant. Sur Instagram, moi, j'ai aucun problème à admettre que je me suis planté. Je me suis planté, je m'excuse et on repart sur autre chose. Je te jure que sur Instagram, et là, il y a une vraie question à se poser d'un point de vue sociétal. Les quelques fois où j'ai dit « je me suis planté », le post fait un bide complet.
Ah ouais.
Ça ne marche pas.
J'aurais cru l'inverse, tu vois.
Ouais. Ouais. Et en fait, c'est complètement paradoxal. C'est que à la fois, ça ne marche pas, mais ça… Enfin, il y a erreur et erreur, en fait. Il y a la défaite et il y a l'erreur. Je fais du jiu-jitsu brésilien, c'est un peu comme du judo. Et puis, j'ai perdu une compétition, je l'ai dit. Énormément de vagues de soutien. Les gens te soutiennent dans ta défaite. Par contre, dire « excusez-moi, je me suis planté. Ça marche. Enfin, j'ai tenté un truc, je me suis planté. Ça, voilà, c'est ça. J'ai tenté un truc, je me suis planté. Les gens ont plus de mal en fait à adhérer à ton erreur ou à ton acceptation de l'erreur.
Intéressant ça.
Je ne sais pas exactement quelle est la différence entre les deux, mais ce que je veux dire, c'est que de mettre en avant son erreur, tu pourrais t'attendre à ce que les gens disent « ouais, c'est cool, tu t'es planté, mais tu feras mieux demain. » Et en fait, quand les gens voient que tu t'es planté, je pense qu'il y a une partie inconsciente qui disent « ah bah merde, en fait, il descend un peu de son, entre guillemets, de son piédestal » ou « ah bah merde, est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance à nouveau parce que là, il s'est planté.
Ouais. »
Et on confond peut-être l'aveu d'échec avec la confiance. Je ne sais pas.
Ouais, bien sûr.
Et même de soi à soi-même, tu vois. Je me suis planté, pourquoi est-ce que je mériterais de me refaire confiance alors que finalement, la dernière fois que j'ai tenté un truc, je me suis planté.
Ouais, et puis on se concentre finalement pas du tout sur ce que tu aurais pu apprendre en t'étant trompé. C'est-à-dire, j'ai essayé, j'ai compris qu'en fait, ça marchait pas ou la façon dont je regardais les choses ne fonctionnait pas. Mais et du coup, bah, j'en suis plus fort parce que demain, je serai plus efficace. En tout cas, j'ai une meilleure perspective. Je me rends compte que j'ai échoué parce que je regardais les choses de telle manière, tu vois.
C'est ça.
Et c'est vrai qu'on se concentre beaucoup plus sur « ah bah ah, il s'est planté, donc bah, s'il se trompe, c'est que c'est un mauvais, en fait. » Mais le problème, c'est que ça peut t'encourager à mettre toutes tes erreurs sous le tapis, quoi.
C'est ça.
Dès que tu te trompes, il ne faut pas que ça se sache, il faut que personne soit au courant, et du coup, tu peux limite encore Exactement. Plus te tromper dans le processus.
Exactement. Exactement.
Mais, il y a un... Donc, je disais au début que je t'avais découvert via la collab que tu as fait avec Syllabus. Ouais. On a parlé du squat, où tu parlais du squat profond. Ouais. D'accord. Ouais. Je pense, alors déjà, j'encourage les gens à aller voir cette vidéo parce qu'elle est vachement bien. Puis la chaîne de Syllabus est top, ta contribution est géniale. Mais je me suis dit, tiens, on va parler un peu du squat profond ouais. parce que c'est marrant. Donc, moi, je me suis un peu entraîné. Bon, j'avais déjà fait avant. ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de ce que c'est ouais. et pourquoi c'est un mouvement qui mérite qu'on y jette un coup d'œil?
Pourquoi c'est un mouvement qui mérite qu'on s'y penche? J'ai envie de te donner deux réponses. C'est pas un mouvement qui mérite qu'on s'y penche, en réalité. Au-delà du fait que tu pourrais en avoir besoin ou que tu pourrais en avoir envie.
Ouais.
Je te donne un exemple qui est très concret. En ce moment, j'ai un patient qui a une spondylarthrite ankylosante. C'est une ouais. maladie génétique qui fait que littéralement tous les os de ton corps se figent les uns aux autres, en particulier au niveau du dos. Tout son dos s'est fixé. Ouais. Tout son dos s'est fixé. Il ne peut plus bouger au niveau du dos. Il a zéro douleur. Okay. Ce qui est très rare, normalement, ça crée des douleurs, mais il a zéro douleur. Il a zéro mobilité, zéro douleur. Ce qui fait qu'il a mis 10 ans avant d'aller consulter un médecin. Et ce qui a fait qu'il a fini par aller consulter un médecin, c'est qu'il n'arrivait plus à faire les lacets de ses chaussures. Et en fait, dans son quotidien, comme il n'avait aucune douleur liée à sa perte de mobilité, il s'en est accommodé, il a compensé dans tous les sens, mais ce qui finissait par le faire chier, c'est de ne pas pouvoir lacer ses chaussures. Donc, moi, le premier, je parle régulièrement de mobilité. Squat profond, c'est un geste de mobilité. Et ce que je tempère systématiquement, c'est que ta mobilité ne doit répondre qu'à tes exigences personnelles. J'ai besoin du squat profond parce que mentalement, ça me fait du bien de se mettre dans cette position-là, parce que ça me rappelle ce voyage que j'ai fait en Asie. Ça me rappelle ces repas que j'ai eus au coin du feu, au fin fond de la Thaïlande, et qu'autour de moi, tous ces mecs-là étaient en train de se mettre dans cette position-là. Et on a eu des conversations philosophiques avec des mecs où on ne parlait pas la même langue. Et spirituellement, ça m'a permis de m'élever, de me mettre dans cette position. Ça me rappelle ça. J'ai besoin du squat profond parce que quand je joue avec mon enfant, c'est la position dans laquelle je me sens bien. J'ai besoin du squat profond parce que pour pouvoir faire une performance en squat, j'ai besoin de descendre bas. Cette position répond à une de mes exigences personnelles.
D'accord.
En aucun cas, il faut que je prenne le problème à l'inverse en me disant il faut que j'aille chercher mon squat profond parce que j'en ai besoin pour ma santé. Non, absolument ouais. pas. Tu n'as pas besoin du squat profond. Si on prend l'exemple de mon patient, finalement, le fait qu'il ait zéro mobilité, ça ne l'a fait chier que pour une chose, mettre le lacet de ses chaussures. Et pourtant, quand il est allongé sur le dos, hein, sa tête ne touche pas un oreiller de 20 cm. Quand il est allongé sur le dos, il n'a plus la possibilité d'avoir la tête qui est posée sur un matelas. Ouais. Sa tête, elle est tellement bloquée qu'en fait, tu as l'impression qu'il a 4 oreillers sous la tête. Or, en fait, il est juste soudé.
Ouais.
On associe malheureusement trop souvent bonne mobilité à état de santé. C'est faux. Quelqu'un qui ne bouge pas, en fait, il faut toujours se dire de quoi mon corps a besoin, de quoi j'ai envie, quelles sont mes exigences, est-ce que ma mobilité me le permet ou est-ce qu'elle ne me le permet pas. Quand ma mobilité ne me permet pas d'atteindre cette position-là, bah, je vais venir chercher un peu loin dans mes amplitudes et ça va me faire mal. Mais si tu n'as pas besoin d'aller chercher ces amplitudes, en fait, tu ne vas pas chercher la provocation d'un phénomène douloureux.
Ouais. Et du coup, cette mobilité, en fait, la mobilité de quelqu'un, c'est-à-dire que tu ouais. te rends compte que tu es un peu raide dans ta vie. Alors là, ouais. hors maladie, hein, je parle pas de la spondylarthrite parce que ça, c'est très ouais. particulier. Ouais. Mais dans hors maladie, si on est là en train de dire, bah, franchement, j'ai un peu du mal à bouger dans l'absolu. Ouais. C'est-à-dire que le ouais. mouvement est difficile.
Ouais.
Améliorer sa mobilité ne devrait pas forcément être l'objectif. C'est peut-être plutôt comprendre ce qui freine ta mobilité. Si je comprends oui. un peu ta logique, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est de se dire, on va prendre un exemple simple. J'ai besoin de prendre les verres qui sont au deuxième étage de mon étagère de ma cuisine. Quand je vais venir chercher ça, ça me fait mal au cervical et ça me fait mal aux épaules. j'ai un défaut de mobilité, de force, bref, de mouvement pour aller chercher mes verres. Et à chaque fois que je vais aller chercher mes verres, ça va me provoquer une douleur. Mon exigence personnelle, j'aurais très bien pu foutre mes verres deux étages plus bas ou j'aurais pu les mettre sur mon plan de travail. Mais ce n'est pas la place des verres. La place des verres, c'est au deuxième étage de ta cuisine. Donc, pour répondre à tes exigences personnelles, qui sont une nécessité de la vie au quotidien, tout le monde ne va pas se trimballer avec ses verres, il faut une bonne mobilité.
Ouais, je vois
Mais
bien.
Ce que je veux dire, c'est que je n'irai pas dire à tout le monde « Travaillez toute votre mobilité. » Il faut juste travailler la mobilité qui répond à tes exigences personnelles. Et pour ça, ça prend du temps. Et le temps, on ne l'a pas tous. Donc, d'aller faire culpabiliser les gens sous prétexte qu'ils ne prennent pas de temps pour faire la mobilité alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin dans leur exigence personnelle, c'est attirer l'attention sur leur système nerveux central à un message douloureux qui n'a pas de raison d'exister.
J'aime bien, tu vois, cette idée. J'aime bien cette idée de ne répare pas ce qui n'est pas cassé, quoi.
Voilà. C'est un peu comme si je te disais, Ben, tu fais du cheval et enfin, tu fais pas de cheval. Et ben, je te dis, bah, tu sais quoi, Ben, c'est hyper dangereux si jamais tu te retrouves sur un dos de cheval, que tu ne sais pas faire de cheval et que tu vas devoir sauter par-dessus une rambarde. Tu risques de te faire super mal. Tu me réponds, ben, mec, j'ai aucune intention de monter sur un dos de cheval. Et si jamais je devais monter sur un dos de cheval, c'est sûr que la première chose que j'irais faire, c'est pas de sauter sur une rambarde. Tu vois?
Ouais, bien sûr. Je vois l'idée. Donc, je sais que tu as une deadline là et qu'on va devoir, ouais. Qu'on va devoir boucler, mais du coup, je veux quand même que tu nous laisses avec un petit truc. Hein. Ouais. J'en profite. Enfin, tu vois, quand tu as un kiné, tu te dis attends, tu as un kiné qui vient, obligé, on repart avec un petit conseil mouvement. Alors, tu vois, par nos invités précédents, on a fait des conseils recettes parce qu'ils étaient très branchés cuisine, ouais. Etc. Donc, du coup, moi, j'ai envie de parler un petit peu. J'aimerais bien que tu nous laisses peut-être avec quelque chose pour quelqu'un qui se pose un peu des questions sur la mobilité de son corps, quelque chose qui serait pas mal pour un peu faire de l'auto-évaluation, tu sais, pour essayer de comprendre un peu où tu en es vis-à-vis de ton corps et peut-être essayer de s'écouter un peu plus. Est-ce que tu as des idées à nous proposer?
Évidemment, j'en ai un milliard, oui, donc je vais essayer de faire simple.
Est-ce que tu en as une que tu veux nous donner aujourd'hui?
Je pense que la bonne idée, ce serait d'avoir une petite routine super simple et de se dire, si je suis assis toute la journée, eh bien, je vais avoir besoin d'aller à l'inverse de la position dans laquelle je suis en permanence. C'est un bon moyen d'évaluation. Regardez dans quelle position vous passez la plupart de votre temps et essayez de réfléchir à quelle stratégie vous pouvez mettre en place pour pouvoir aller à l'inverse. Tout en sachant en fait qu'il n'y aura pas vraiment de stratégie meilleure qu'une autre, que la seule bonne stratégie, ce sera le mouvement. Si vous êtes assis toute la journée en flexion, donc courbé vers l'ordinateur, ce sera une très bonne solution d'aller vous pencher à gauche, d'aller vous pencher à droite, d'aller vous pencher en arrière, d'aller vous pencher en tournant à gauche, d'aller vous pencher en tournant à droite, et ça, de le faire régulièrement. Régulièrement, ça veut dire quoi? Ça peut être une minute toutes les heures. Ça peut être 10 minutes par demi-journée. Ça peut être une heure tous les 3 jours. Mais toujours se dire finalement, ce que je fais dans un sens, il faudrait que je redonne l'information à mon corps de le faire dans l'autre sens. Qu'à partir du moment où vous avez des douleurs qui s'installent, ça veut dire que le problème, il est déjà là depuis un petit moment. Donc, c'est dommage d'attendre que la douleur soit déjà là pour commencer à corriger le problème et qu'en fait, ce sera plus compliqué de corriger un problème une fois que la douleur est installée. Ouais. La prévention vaut bien plus que n'importe quel traitement.
Ouais, et puis en plus, tu mets bien le doigt sur le truc d'avoir un truc que tu fais régulièrement, ça te donne en fait une valeur de base. Ouais. Tu verras même ça chez les grands athlètes, les grands sportifs. Ils ont toujours un truc qu'ils font régulièrement et ils utilisent ça comme valeur jalon. Et donc, ils savent où ils en sont en fonction de « aujourd'hui, je ne me sens pas bien, aujourd'hui, je ne me sens pas bien » parce que ça, c'est les trucs que je fais tous les jours.
Tu as ce côté vraiment hyper important du rituel. Notre cerveau et notre tête et notre corps a besoin en fait de ritualisation. Ça devient moins coûteux en énergie de faire toujours la même chose. Par contre, c'est très coûteux de commencer à essayer de le faire.
Et ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Greg, pour ton intervention. C'était super sympa.
Avec plaisir. C'est vrai qu'on a. Tu vois, d'habitude on déconne un peu plus, mais finalement, tu as soulevé plein de sujets sérieux. Et puis, j'avais ce matin envie d'être sérieux. Il y a des fois.
Bon, si jamais tu as envie de revenir pour nous faire des blagues, tu es le bienvenu quand même.
Pour le one-man show de Greg.
Ouais, voilà. Merci beaucoup pour ton temps.
Je t'en prie.
Est-ce que tu peux juste nous dire où on te trouve
Sur Instagram, YouTube, Major Mouvement.
Super. Et du coup, je rajoute ça dans les liens de l'émission. Merci à Greg d'avoir pris du temps avec nous. Si vous ne connaissez pas la chaîne Major Mouvement, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est tout plein d'explications, d'exercices et globalement, c'est très très bien fait. Vous aussi, prêtez le serment d'hypocrite en nous retrouvant sur la page Facebook de l'émission. Et n'hésitez pas à nous poser des questions de santé dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcasts. Et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À bientôt.